Bonjour à tous. Pierre Desproges, cet humoriste à l'humour un peu grinçant du siècle dernier, a posé cette énigme. Comment est-ce qu'on reconnaît l'ennemi ? En fait, c'est très simple. Parce que l'ennemi est stupide. Parce que l'ennemi, il croit que l'ennemi, c'est nous. Mais en fait, l'ennemi, c'est lui. Et derrière cette petite histoire, cette petite blague, toute mignonne en apparence, se cache un des plus gros mensonges que notre adversaire ait produit, c'est que les cieux soient le champ de bataille de deux entités rivales et de même valeur, le bien et le mal, engagées dans une lutte sans merci, dans un combat à l'issue incertaine. Et C.S. Lewis, dans son livre « La tactique du diable », dont je parle souvent mais qui m'inspire beaucoup, a très bien planté le décor par lequel Satan veut nous enfumer en quelque sorte, en donnant à Dieu le qualificatif d'ennemi, vu par l'adversaire, d'ennemi, sans pouvoir toutefois ôter la majuscule qu'il est quand même obligé de mettre au mot ennemi, contrairement à ce que nous trouvons dans la Bible. Lorsqu'il est parlé de l'ennemi, il n'y a pas cette majuscule qui est donnée au mot pour qualifier Satan. Et avant d'aborder ce sujet difficile qu'est l'ennemi, il est nécessaire de bien poser un principe essentiel et qui doit être clairement annoncé. Il est vaincu. Il est vaincu. Quoi que nous voyons, quoi que nous entendions, quoi qu'il se déchaîne pour apparaître en divers lieux et de multiples manières, rien ne saurait mettre en faute, prendre en défaut cette vérité annoncée par Jésus dans Jean, chapitre 16 et au verset 33, « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Et par le monde, il entend bien entendu, non les individus, mais le système de valeurs, de pensées, par lequel l'ennemi les a asservis et sur lesquels il règne sans partage. Jean, dans sa première épître, précise ceci. Je vais faire beaucoup de lectures ce matin, parce que lorsqu'on traite ce sujet, le mieux c'est de donner laisser la place à la parole de Dieu. Donc on n'aura pas le temps de toutes les tourner, de toutes tourner nos pages jusqu'à ces passages-là, mais vous pourrez les reprendre. 1 Jean 4, versets 2 à 4, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes pas placés au milieu d'une bataille à l'issue incertaine. La victoire a été remportée premièrement par la vie de Jésus, que l'ennemi n'a pas pu soumettre au péché, mais également, et c'est là que nous sommes bénéficiaires de sa victoire, sur la croix, où il est parvenu à nous arracher à l'emprise que l'ennemi croyait avoir sur nous, victoire qui a été authentifiée par sa résurrection. L'apôtre Jean est très prolifique sur ce thème, et c'est encore lui qui dit, dans l'Apocalypse au chapitre 12, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui détruit toute la terre. Il fut précipité, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Et dans ce sens-là, tel que Jean nous le dit, nous sommes associés à cette victoire, tellement associés que Jean dit « Ils l'ont vaincu ». Mais il précise bien que c'est à cause du sang de l'agneau et que c'est sous ce sceau du sang de l'agneau que nous nous sommes abrités, et grâce à cet abri qui nous est conféré et sous lequel nous sommes abrités en le confessant publiquement. Nous sommes vainqueurs parce que Jésus a vaincu l'ennemi. Celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi est vaincu, soyons-en persuadés. Aucune nouvelle manœuvre de l'ennemi, aucune nouvelle attaque, aucune nouvelle stratégie, aucun redéploiement de troupes, aucune nouvelle arme, aussi efficace soit-elle, ne pourra mettre en cause cette vérité. L'ennemi, c'est lui, Satan, et il sera jeté avec l'enfer dans l'étang de feu. Quel qualificatif trouve-t-on au sujet de l'ennemi dans la Bible ? Satan. Le diable, qui signifie diviseur. L'ange de l'abîme, Apocalypse 9, en hébreu, Abaddon, destruction, et en grec, Apollyon, destructeur. Belzéboul, le prince des démons. L'usurpateur, c'est-à-dire celui qui vole le pouvoir. L'accusateur de nos frères, vous êtes coupables. L'adversaire, Bélial, le dragon, le dieu de ce siècle, le Léviathan, le malin, le meurtrier, celui qui conduit à la perdition des pans entiers de la race humaine, le menteur, le père du mensonge, la puissance des ténèbres, le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire qui s'appuie sur quelque chose qui n'a aucun appui, une idée de futilité, le prince de ce monde, le serpent, le tentateur. J'en oublie sans doute. Voilà un rapide portrait de notre ennemi, de l'ennemi de Dieu. Et Paul nous rappelle, et là on peut nous ouvrir nos Bibles, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 12, Paul nous rappelle que l'ennemi, c'est lui. Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter, on peut lire à partir du verset 11, parce que ça plante le décor. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, comme le faisait par exemple l'Inquisition, et comme nous pourrions être tentés de le faire si nous perdions de vue que notre combat est spirituel et non charnel. Notre ennemi, ce n'est pas l'homme, aussi virulent puisse-t-il être, mais c'est celui qui le manipule, le prince de ce monde, qui a soumis toute la création à la rébellion contre son Créateur. On a assisté ces dernières années à une résurgence très marquée du satanisme. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, des chrétiens avaient mis à jour des pratiques occultes particulièrement actives dans le domaine de la musique rock. Et des messages qu'on appelait messages subliminaux étaient enregistrés sur des disques, c'était à cette époque-là encore des disques vinyles, et ressortaient de manière claire si on passait le disque à l'envers. Et ces messages, lorsqu'on les passait à l'envers, glorifiaient Satan et appelaient à vivre pour lui. Personnellement, j'ai trouvé certains des arguments parfois un peu tirés par les cheveux, mais d'autres étaient assez convaincants, et j'ai surtout retenu le témoignage de plusieurs personnes ayant, après conversion ou pas d'ailleurs, pas forcément, admis s'être livrés à ces pratiques. On peut toujours discuter l'efficacité de la méthode. Est-ce qu'il est prouvé que lorsque vous passez un son à l'envers, comme on le disait à l'époque, l'inconscient le captait, le décodait et l'intégrait comme le réel pour exercer une puissance suggestive. C'est quelque chose, un argument auquel j'ai toujours eu beaucoup de mal à souscrire. Mais il n'empêche, les choses sont ce qu'elles sont, et un fait est qu'on ne peut qu'admettre, c'est que des personnes, ont pris la peine de dissimuler sciemment dans une musique un message satanique dans le but de le diffuser mondialement et à l'insu de millions de jeunes et de les entraîner sournoisement avec lui dans tout ce qui peut les éloigner de Dieu, la drogue, une sexualité débridée, l'alcool. Rien de très nouveau en fait, mais démultiplié par des moyens de communication sans précédent et capable de toucher le monde entier dans un minimum de temps et d'efforts. Voilà quelles sont les méthodes de notre ennemi, de l'ennemi de nos âmes. La dissimulation, la ruse, l'infiltration, le mensonge, pour parvenir petit à petit à s'afficher au grand jour, comme c'est le cas aujourd'hui. Des graffitis de croix renversées, profanation de tombes, cultes sataniques qui sont pratiqués plus ou moins ouvertement. Il paraît qu'on peut trouver assez facilement des boîtes de nuit où sont pratiqués couramment des sacrifices d'animaux. Et on ne compte plus aujourd'hui les paroles de musique qui appellent ouvertement l'auditeur à rejoindre l'armée des démons. Et là encore, on pourrait dire que l'imposture se prolonge même à l'encontre de ceux qui pratiquent ou seulement assistent à de telles choses, qui disent ne pas y croire, c'est une mode, c'est un style. Ils ne perçoivent pas la portée de leurs gestes. Quand vous discutez de Dieu avec les gens, et si par malheur il vous arrive de faire allusion à Satan, alors là vous voyez généralement un petit sourire qui apparaît au coin des lèvres, et peut-être cette phrase, vous savez, Dieu j'ai déjà du mal à y croire, mais à Satan, alors le diable, ça me fait un peu sourire. Et oui, le diable ça fait sourire. Comment ne pas sourire quand on a été baigné dans ces représentations naïves d'un petit diablotin à cornes, avec des pieds de bouc, à la queue fourchue, le visage un peu rouge, armé d'une fourche à harpon. Peut-être même avez-vous vu récemment cette publicité qui réunit autour d'une même table anges et démons. Il n'est pas si méchant que ça. Un bon repas suffit à nous réconcilier avec lui. Alors pourquoi Jésus, dans ce cas, dans lequel aucune fraude n'a pu être décelée, nous l'avons dit tout à l'heure, prenant en tout lieu la réconciliation de Dieu avec Dieu, a-t-il refusé de traiter avec ce personnage dans le désert ? Pourquoi l'a-t-il chassé impitoyablement de toutes les personnes qui étaient victimes de sa tyrannie ? Pourquoi a-t-il donné sa vie et affronté plusieurs heures sur cette croix la séparation avec son Père ? Parce qu'on ne peut pas traiter avec le diable. Jésus nous l'a bien montré, Jésus tient des paroles de vérité, alors que tout en lui n'est que mensonge, intrigue, falsification, parodie de vérité. J'ai personnellement une petite interprétation qui m'est toute particulière, je vous la livre comme ça, j'ai jamais entendu de commentaire aller dans ce sens-là, alors vous en faites ce que vous en voulez, mais l'épisode où Jésus est confronté après 40 jours de jeûne à la faim, et où l'adversaire lui dit, l'ennemi, Satan lui dit qu'il peut changer ces pierres en pain. Peut-on pas voir là, par exemple, une parodie de la manne qui a nourri les Juifs durant 40 ans dans le désert ? La parodie l'enchante. La parodie de la vérité l'enchante. Pourvu que la vérité reste cachée ou travestie. La parodie de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est agréable à Dieu, il en raffole, pourvu que ce ne soit ni juste, ni bon, ni agréable à Dieu. Il se complaît dans la parodie de la prière, dans la parodie de l'adoration, du culte rendu à Dieu, pourvu qu'il n'y trouve ni esprit de prière, ni esprit d'adoration, et que le culte s'apparente plutôt à un rassemblement de personnes accomplissant un rite religieux dimanche après dimanche. C'est un falsificateur. Il est appelé le père du mensonge parce que personne avant lui ne l'avait pratiqué. Il aurait pu déposer un brevet. C'est l'invention la plus universellement utilisée. Mais ne le surestimons pas. Il est vaincu. Merci de l'enthousiasme. Comme nous le disions déjà au début, nous ne sommes pas engagés dans un combat à l'issue incertaine. La victoire est acquise. Comme père du mensonge, il veut nous faire croire qu'il avait vaincu Jésus à la croix. Et voilà, ce serait juste l'histoire d'un gentil illuminé qui serait mal tourné. Or, c'est précisément à la croix que Jésus a remporté la victoire, en offrant le salut à tout homme qui croirait en lui, victoire authentifiée par sa résurrection qui prouve que la mort n'a pas pu le retenir. Pour beaucoup de gens, le diable, c'est le Dieu de l'autre côté. Comme Dieu est le Dieu du bien, Satan est le Dieu du mal. Et en cela, ça rappelle un peu la mythologie grecque ou les croyances indiennes. Satan aurait les mêmes prérogatives, les mêmes pouvoirs de Dieu, une puissance égale à celle de Dieu, mais tournée vers le mal. Et là encore, c'est un mensonge. Satan n'a pas la puissance de Dieu. Il ne l'a jamais eue, il ne l'aura jamais. Son pouvoir est usurpé. La toute-puissance de Dieu, il ne l'a pas. L'omniprésence, c'est-à-dire, l'omniscience, la connaissance que Dieu a de toutes choses, il ne l'a pas. L'omniprésence, la capacité que Dieu a d'être présent en tout lieu, il ne l'a pas. La seule puissance qu'il a, il la tient du Dieu du jour où il a été créé, car il a été créé par Dieu pour remplir une mission. Et là, on peut de nouveau ouvrir nos Bibles dans un texte qui se trouve en Ézéchiel au chapitre 28, qui est une allégorie à travers un jugement qui est prononcé, une description et un jugement qui est prononcé sur le roi de Tyr. C'est bel et bien de Satan qu'il est question ici. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 11. Verset 12, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané les sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Voilà cette allégorie à partir d'un jugement prononcé sur le roi de Tyr qui nous parle de cet ange, sans doute le plus bel ange, chérubin protecteur, mais il n'est qu'un ange et tout le reste n'est qu'usurpation de pouvoir. Et nous devons prendre garde à nous-mêmes. La Bible nous dit de nous garder de penser que c'est par notre propre force que nous pouvons accomplir toutes les tâches qui nous sont confiées. Voilà où ça amène le plus bel ange. Un autre point apparaît aussi dans la Bible qui voudrait bien nous cacher, c'est qu'il doit demander à Dieu la permission de nous tenter et de nous persécuter. Et pour cela, nous allons rejoindre le livre de Job, au chapitre 1. À partir du verset 6, Job 1, 6. « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne sur lui comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel lui dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » On voit bien ici que Satan doit venir demander la permission à Dieu pour s'occuper du cas de Job, porter atteinte à sa santé, porter atteinte à ses biens, et que Dieu lui place des limites. Et une seconde fois, on ne va pas le lire, mais Satan doit revenir devant Dieu pour demander la permission de porter atteinte, cette fois, à sa santé. C'est surprenant, non ? Ne surestimons pas le pouvoir de Satan. Il ne peut rien nous faire que Dieu ne lui ait accordé. Et en ce sens-là, je prendrai peut-être une image. On peut parfois avoir l'idée que, ou peut-être c'est une idée qui est un peu universelle, que si Dieu a créé le monde, ce serait un peu comme un chercheur qui aurait assemblé des éléments chimiques et puis tout à coup ça prend une ampleur qu'il avait pas soupçonnée et il contrôle plus la situation, c'est en train de un peu d'exploser dans ses éprouvettes, il colmate comme il peut, mais ça le dépasse. Et c'est pas du tout cette image que nous devons avoir de Dieu. Si les choses ne se passent pas selon ce que Dieu avait voulu pour l'humanité, c'est parce que l'homme a fait un autre choix, mais Dieu garde le contrôle de tout. Et j'avoue que parfois, dans certaines épreuves, j'ai tendance à l'oublier. Une autre chose est que Satan ne peut pas agir en nous-mêmes. Le chrétien est la demeure du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne saurait s'accommoder de la présence d'un démon. Le chrétien est habité par le Saint-Esprit. On ne peut pas dire possédé. Il est habité. Et aucun démon ne viendrait le défier sur ce terrain-là. Ça peut paraître évident, mais on rencontre des chrétiens qui craignent d'être possédés ou qui soupçonnent un autre chrétien de l'être. Et là, c'est encore un abus de pouvoir et un mensonge de l'accusateur. En vertu de ce que Jésus a accompli sur la croix, pour nous, le diable n'a pas de droit sur nous. Et d'ailleurs, quand je dis le diable, je crains peut-être d'être un peu prétentieux, et je dois avouer que je n'ai pas mérité d'être tenté par Satan lui-même, comme Jésus le fut dans le désert, parce que face à Jésus, l'ennemi a dû déployer l'élite de ses troupes, la fine fleur des armées infernales. En réaction aux miracles qui eurent lieu durant le ministère de Jésus, à profusion, il me semble que l'ennemi a tenté de réagir au même niveau. Et on voit la concentration de démoniaques, de gens possédés, qui ont pu se trouver sur un aussi petit territoire dans un temps aussi court, beaucoup plus que dans tout le reste de toute la Bible, Alors j'ai appris ce matin que c'est 2 à 4 ans, je croyais que c'était 3 ans, c'est 2 à 4 ans, durant lesquels Jésus s'est trouvé aux prises tous les jours avec les armées infernales. Satan en personne dans le désert, et puis des cohortes entières qui avaient pris possession d'individus et s'opposaient sans cesse à Jésus. Je crois qu'à ce moment-là, Satan avait concentré toutes ses forces sur cette petite bande de terre d'Israël pour tenter d'empêcher le Fils de Dieu d'accomplir son œuvre de rédemption. Si Satan parvenait à faire reculer Jésus devant le sacrifice, ou s'il parvenait à le faire chuter, c'en était fini pour nous de la rédemption. Si cette période a été riche en miracles, elle le fut également en présence démoniaque. Et il n'est pas anormal que le retour de Jésus approchant, l'ennemi redéploie ses troupes et redouble d'activité. Olivier nous l'a mis en évidence dans l'étude du livre de l'Apocalypse, au point que même les élus peuvent éprouver de la difficulté à discerner les vrais et les faux prophètes. Paul le dit aux Corinthiens, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, « Si Satan se déguise en ange de lumière, il n'est pas étrange que ses ministres se déguisent aussi en ministres de justice. » Les deux écueils sur lesquels nous pouvons tomber en matière de démons sont tout autant d'en voir partout que d'en voir nulle part. Et pour ça, il nous faut le discernement que donne l'Esprit et l'éclairage Et nous allons revenir au texte que nous avons lu tout à l'heure, en Éphésiens au chapitre 6 et versets 11 à 13, l'éclairage de ce grand principe biblique donné par Paul. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous l'avons dit, et c'est bon de le redire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne nous trompons pas d'ennemi, notre ennemi n'est pas l'homme. Ce n'est pas sur le plan humain que la bataille se livre. Jésus nous a toujours appelés à aborder nos semblables, qui et quel qu'il soit, dans une relation d'amour. Par contre, l'homme, l'être humain, est bien au centre, l'enjeu principal de la bataille. L'ennemi, ne nous y trompons pas, est ennemi de Dieu, mais aussi ennemi de l'homme. Et même l'homme qui lui voue sa vie, il est même l'ennemi de l'homme qui lui vaut sa vie, et il veut maintenir les hommes loin du salut qu'offre Jésus. Diable vient d'un mot grec qui signifie diviseur. C'est un personnage qui se plaît à poser des cloisons sans porte. Des cloisons sans porte entre les hommes. L'Église est un édifice en construction, et il se plairait à construire ici, entre nous, des cloisons sans porte. Entre les églises, tout d'abord, plus nous nous morcelons, et moins nous avons d'échanges inter-églises, et moins son règne est menacé. Ensuite, entre les structures de l'Église, s'il peut poser des cloisons sans porte entre nous, dans les structures de notre Église, il ne va pas s'en priver. Un exemple qui me vient spontanément, et je ne dis pas ça parce que c'est du vécu, c'est un exemple qui est évident, entre des structures qui doivent fonctionner ensemble, comme par exemple la musique et la sono. Si on pose une cloison sans porte entre la musique et la sono, ça coince. Et puis, à l'intérieur des structures, et ainsi de suite, jusqu'à l'individu, il va tenter d'isoler chacun d'entre nous, il va tenter d'isoler les individus de manière... De toute manière, toutes plus sournoises les unes que les autres. Et je ne parle pas de l'isolement physique de la personne qui s'éloigne de l'assemblée, mais surtout du repli sur soi, consécutif à des attentes insatisfaites, des déceptions, des incompréhensions, des conflits de personnalité, un sentiment d'injustice ou que sais-je encore. Il se plaît à cloiser, à poser entre nous, des cloisons sans porte, sans communication, sans échange. Nous entrons dans une période très importante de la vie de notre Église, et trois sujets particuliers sont devant nous, et je les cite tels que Samuel les a présentés à l'Assemblée Générale dans son rapport moral. Le premier, c'est la passation du ministère pastoral à un autre pasteur en vue de la nouvelle phase de la vie de l'Église. Le deuxième sujet, c'est l'élargissement ou le déménagement de notre Église dans un bâtiment offrant de meilleures conditions de vie, de croissance et de service. Et le troisième, c'est l'implantation d'un nouveau lieu de culte à Brioude sous la direction de la famille Perkins. Ces trois sujets, chacun de ces sujets a pour effet de porter atteinte à l'ennemi ou de lui reprendre une partie du terrain qu'il a dérobé. Ne nous illusionnons pas, il n'abandonnera pas le terrain sans réagir. Et l'expérience montre que quand son royaume est menacé, l'unité des chrétiens est toujours sa cible favorite. Mais peut-être, au-dessus de tous les mots que nous pouvons employer pour qualifier nos rassemblements, il est un mot que le diviseur, par nature, par essence, ne peut pas supporter. Et ce mot, c'est ensemble, ensemble. Quand nous chantons, ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, c'est une véritable déclaration de guerre que nous faisons. Quand nous proclamons ensemble, construisons nos projets, ensemble préparons la prochaine étape, c'est pour lui une provocation. Il n'aura de cesse, sinon de nous empêcher de nous tenir ensemble, du moins de faire en sorte que ce mot reste à l'état de slogan vide de sens et ne corresponde à aucune réalité vécue. Plusieurs réunions ont été tenues en Église sur les trois sujets que je viens d'évoquer. Maintenant, le temps est à la prière, ensemble. Proclamons que ce mot « ensemble » n'est pas un vain mot, en représentant massivement notre assemblée aux trois réunions de prière qui sont prévues, trois moments de jeûne et de prière, dont le premier est le 21 de ce mois-ci. Tenons-nous ensemble à l'écoute de la volonté du Seigneur et faisons monter vers lui ensemble nos prières et nos supplications. Bannissons toute crainte de l'ennemi. La crainte ne fait pas partie des sentiments qu'il peut légitimement nous inspirer. Nous ne devons la crainte qu'à Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il rugit comme un lion, laissons-le rugir. Il ne peut rien nous faire que Dieu ne l'ait accordé. Il peut tenter de nous impressionner, mais n'oublions jamais que ce ne sont que les dernières manifestations d'un ennemi déjà vaincu. Que ce soit les apôtres Pierre, Paul ou Jacques, tous nous disent que la bonne attitude face à l'ennemi, ce n'est pas la crainte, c'est de lui résister. Paul, nous l'avons vu dimanche dernier, recommande de ne pas lui donner accès. En nous tenant ensemble sous le regard de Dieu, nous refuserons tout accès à notre ennemi. Je vous propose de chanter un chant de victoire que nous proclamions que Dieu a vaincu notre ennemi par ce chant « Victoire ».